20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 10 avril 1970. Paul McCartney annonce la fin du groupe culte Les Beatles. Mais derrière cette information se cache une vérité que seuls les membres du groupe connaissent. Et on vous la raconte ce soir dans Jour J. Nous sommes le 10 avril 1970. Alors qu'est sorti Abbey Road, 7 mois plus tôt, le 11e album des Beatles en 10 ans, Paul McCartney annonce la séparation du groupe et son premier album solo. Paul is quitting the Beatles. Paul quitte les Beatles, peut-on lire sur toute la moitié de la une du quotidien britannique Daily Mirror, avant que le New York Times lui emboîte le pas le lendemain. Un choc pour les fans du groupe qui les suivent depuis leur premier titre Love Me Do en 1962. Les Beatles enchaînent alors les succès fulgurants, déchaînent les passions féminines et provoquent ce que l'on appellera alors la Beatlemania. Une passion hystérique du public qui les obligera même à stopper leur concert en 1966. En revanche, cette information, si elle est un choc pour les fans, n'est en aucun cas une surprise pour John Lennon, Ringo Starr et George Harrison. Car la réalité est bien loin de ce que cette annonce laisse à penser. Ce que le public ignore alors, c'est que les Beatles se sont déjà séparés, mais qu'ils ont fait un pacte. Ne pas médiatiser la fin du groupe, car il reste encore un album à produire. Ringo Starr avait déjà déclaré vouloir claquer la porte fin 68. Harrison s'en était ouvert début 69, mais rien n'avait été réellement acté avant que John Lennon annonce quitter le groupe définitivement le 20 septembre 1969. Surtout, surtout, rien ne devait transparaître jusqu'au 8 mai 70, date de la sortie de leur dernier opus « Let it be ». Un pacte de silence donc que Paul McCartney ne respecte pas ce 10 avril 1970 et qui ulcère ses anciens comparses. Les autres membres, John Lennon en tête, l'accuseront de s'attribuer la séparation des Beatles pour promouvoir la sortie de son premier album solo intitulé 35 Minutes. Autrement dit, un gros buzz et un gros coup de pub. Une trahison qui portera ses fruits car Paul McCartney se classera très vite numéro 1 aux États-Unis et numéro 2 en Grande-Bretagne. En réalité, rien ne va plus depuis quelque temps du côté de ceux que l'on appelle aussi les Fab Four, ces quatre fabuleux qui ont commencé dans une petite cave de Liverpool et qui n'ont rien de vilain garçon. On leur donnerait le bon Dieu sans confession dans leur costume cravate, eux qui préfèrent la mop top, cette coupe de cheveux propres et longs, à la banane gominée qu'arborent les rockers de l'époque. Dans les coulisses, leurs relations sont loin d'être celles d'enfants de cœur. Les tensions ont presque toujours émaillé le quatuor aux 200 chansons créées à l'origine par John Lennon et par Paul McCartney, de 2 ans son cadet, qui se disputeront régulièrement le rôle de leader. Mort de leur manager historique, Brian Epstein, conflits juridiques et financiers, choix d'un nouvel impresario que McCartney qualifiera de putain d'idiot et qu'il attaquera en justice pour ne pas lui laisser les droits de leur répertoire, sans compter l'arrivée de la fameuse Yoko Ono, la compagne influente et redoutable de John Lennon qui sera accusée d'ingérence dans le groupe et qui cristallisera les rancœurs. Elle-même se décrira comme une tigresse dominante et déterminée, mise en rivalité avec Linda McCartney, la femme de Paul. Et si l'amertume semble avoir toujours existé au sein même des Beatles, elle se traduira publiquement lorsque chacun prendra acte de la dissolution du groupe. À l'instar de George Harrison qui, à la sortie 7 mois plus tard de son triple opus solo, en fera la promotion avec poésie. Imaginez que vous avez été constipé pendant des années. Imaginez soudain que vous avez la diarrhée. C'est cela, pour moi, cet album, déclarera-t-il. Retour ce soir et jusqu'à 21h sur un groupe mythique qui a battu tous les records, qui a tellement fait rêver ses fans et dont les coulisses fissurent l'image parfaite qu'ils avaient un temps réussi à créer. Dans un instant, Yves Bigot sera notre invité jusqu'à 21h. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Et ce soir, en direct sur RTL, notre jour J est le 10 avril 1970. Paul McCartney annonce, vous l'avez entendu, la fin du groupe culte Les Beatles. Choc du côté des fans, mais pas de celui du groupe, car ils sont déjà séparés depuis que John Lennon a décidé de claquer la porte plusieurs mois auparavant. Bonsoir Yves Bigot.
Bonsoir Flavie, bonsoir
Bienvenue
à tous.
Bienvenue sur RTL, vous êtes directeur de TV5 Monde, vous êtes spécialiste de la musique, c'est la raison pour laquelle on vous a invité. On s'est dit, bah voilà, pour parler des Beatles, il nous faut Yves Bigot. 51 ans après leur séparation, c'est dans un entretien à BBC Radio 4 qui sera diffusé dans son intégralité le 23 octobre. Et bien Paul McCartney y livre enfin sa version de ce qu'il estime être la période la plus difficile de sa vie et il confirme enfin que John Lennon est à l'origine de la séparation des Beatles.
Oui, ça, les fans et les spécialistes le savaient de longue date, que c'était John Lennon. Notre Johnny, comme il dit à la BBC, qui avait décidé qu'il en avait assez, il en avait marre. Et c'est vrai que c'était une période pendant laquelle, en tous les cas, Lennon était à l'héroïne et McCartney était en pleine dépression en raison justement des conflits au sein des Beatles.
Il était dans sa maison en Écosse, apparemment, Paul McCartney, il fumait pétard sur pétard, il buvait du whisky. Enfin, on est quand même super loin.
Il était avec sa toute jeune famille, et Linda McCartney qui venait d'épouser peu de temps avant.
Voilà. Alors là, ça a été une période compliquée. Pourquoi est-ce que, d'abord, est-ce que réellement, Paul McCartney a voulu un peu faire un buzz à travers cette annonce pour promouvoir son album solo ?
C'est difficile à dire, mais ça ressemble à ça, en tous les cas, puisque le pacte, et vous l'avez très bien rappelé, Flavie, était que John avait annoncé, au moment de la sortie d'Abbey Road, que... il quittait les Beatles, c'est que donc le groupe était terminé, puisque, comme il le rappelait toujours, j'ai créé ce groupe, c'est moi qui y mets fin. Et donc, évidemment, il a mal pris que ça soit McCartney qui annonce son départ. Je pense qu'il était déprimé, qu'il n'était pas très certain de ce qu'allait donner son album en solo, et que il a pensé que c'était un bon plan de com', d'annoncer qu'il quittait les Beatles en même temps qu'il sortait un premier album.
Alors vous savez quoi Yves Bigot, moi je vais vous avouer un truc, c'est qu'en préparant cette émission, j'étais un petit peu déçue par les Beatles.
Parce qu'ils se séparaient ?
Non, alors pas seulement, mais parce que en fait, derrière un aspect, c'est ce que je disais en intro, c'est-à-dire ce côté garçon de bonne famille, on leur prêterait des valeurs.
Alors, ils n'étaient pas du tout des garçons de bonne famille.
C'était
d'abord, alors contrairement aux Rolling Stones, qui eux étaient des garçons de la bourgeoisie londonienne, eux, ils viennent vraiment du monde ouvrier de Liverpool. Ouais. Ils naissent tous pendant la guerre. Donc, dans un Liverpool, sous les bombes, pendant la guerre, extrêmement paupérisé. Ringo vient d'une famille, mais totalement paupérisé. Il n'y a guère que John Lennon, dont la tante est quand même de la toute petite bourgeoisie. Mais le père de George Harrison, c'est un chauffeur de bus. Donc, ils ont grandi à la dure, ils ont vécu à la dure quand ils jouaient dans les clubs de Hambourg, la Reeperbahn.
Voilà, il faut préciser qu'ils ont commencé à Liverpool.
Tous les cinq, puisque à l'époque, ils étaient cinq dans un lieu qui était comme la moitié de votre studio, les uns sur les autres. Je veux dire, ils ont connu, c'était des gars durs et costauds. D'ailleurs, Eric Clapton a dit qu'un jour, quand il avait vaguement été sondé par Lennon pour savoir si... il avait dit, non, c'est trop dur dans les Beatles. Les relations entre eux sont trop violentes. Moi, je veux pas aller là-dedans.
Voilà, et on a vraiment le sentiment qu'ils se comportaient finalement entre eux. Et ça, c'est loin de l'image qu'ils pouvaient renvoyer à travers leurs photos, leur look, leurs chansons. Entre eux, c'était du fight comme dans les rues de Liverpool, quoi.
Alors oui, mais non.
Ah bon ?
Parce que comme dans tous les gangs, comme dans toutes les bandes, c'était des frères. Et comme dans toutes les familles, ils se chamaillaient entre eux, mais c'était eux contre le monde entier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu survivre à la folie de la Beatlemania. C'est qu'ils étaient tous les quatre, ils se protégeaient. C'était un seul être à quatre têtes. Mais forcément, ça ne peut pas durer toute la vie, ça.
Avec des guerres fratricides quand même. Est-ce qu'il y avait une rivalité, par exemple, entre John Lennon et Paul McCartney ?
Non, il y avait une fraternité absolue. Mais après, comme entre les frères, il y a de l'émulation. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, c'est de l'émulation, c'est sain, c'est positif. Et à un moment, surtout quand il y a d'autres éléments qui commencent à entrer dans le jeu, ben, ça commence à devenir un peu négatif. Mais c'est vraiment qu'à la fin. Et je pense qu'ils ont été à deux doigts, en fait, de ne pas se séparer, en réalité. Il s'en est fallu de pas grand-chose, puisqu'il y avait même des projets qui étaient faits pendant un moment pour faire encore un autre album. Après, ça s'est pas fait vraiment... En raison des entourages et puis des circonstances, je vous l'ai dit, Lennon était malade, McCartney était déprimé, George Harrison était très déçu parce qu'il avait toutes ses chansons dont il expliquait poétiquement qu'elles avaient besoin de sortir de lui, mais qu'il était tellement...
Après des années de constipation.
Il était tellement dominé par le talent de John et de Paul depuis tellement d'années. Et puis il était le plus jeune, il avait 3 ans de moins que John. Donc John, il le considérait un peu comme le gamin du groupe, donc il faisait pas... suffisamment attention à ses chansons à lui. Donc voilà, c'est simplement qu'au bout d'un moment, ça finit par exploser.
Si je vous pose quand même la question sur la rivalité entre McCartney et Lennon, c'est que vous l'avez cité il y a un instant, John Lennon disait « c'est moi qui ai créé le groupe » et McCartney, dans le doc qui va venir, dont je parlais il y a un instant, il déclare « c'était mon groupe, c'était mon travail, c'était ma vie ». Alors mais moi, je voulais que ça continue.
Oui, bien sûr, mais Ringo pourrait le dire aussi. D'accord. C'était leur groupe à chacun des quatre. Il y a Ringo qui était le tout dernier venu dans le groupe. Ils pourraient tous dire ça. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est personne n'a été les Beatles avant les Beatles.
Ouais, c'était
donc on ne peut pas comparer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été, à qui ou à quoi que ce soit.
Vous parliez des tensions il y a un instant. On va y revenir. On va parler de... À votre avis, si on parle de tension avec les Beatles, on va parler...
Ah, je vous vois venir, et c'est pas beau ça de dénoncer une autre femme,
voilà, avec Yoko Ono et son arrivée dans le groupe des Beatles. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui tous les soirs vous fait voyager dans le temps. Nous sommes en direct jusqu'à 21h. Merci de nous suivre sur RTL et en podcast. Jour J qui vous emmène donc ce soir en 1970, le 10 avril précisément. Coup de tonnerre pour leurs fans, les Beatles se séparent après 8 ans d'une productivité phénoménale. 12 albums originaux, 200 chansons, des tournées incessantes qui provoqueront l'hystérie. En 1964 par exemple, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, ils se seront produits, écoutez bien, 2 à 3 fois par jour, durant 3 semaines d'affilée à l'Olympia à Paris. Un record jusqu'à ce jour inégalé. Vous y étiez, Yves Bigot ?
Non.
D'accord, ok.
J'avais 9 ans.
Bienvenue dans Jour J.
Même pas, j'avais 8 ans, j'avais pas encore 9 ans même.
Bienvenue dans Jour J.
Visiblement, j'ai pris un coup de vieux depuis la dernière fois qu'on s'est vu.
Je me suis pris le même coup de vieux avec Assia, qui est journaliste dans notre équipe aujourd'hui, qui me dit « mais quand même, les Beatles, c'est toute ton enfance ». Et là, j'ai dit « Assia, tout va bien, j'espère qu'elle nous écoute, on t'embrasse, Assia ». Bref, donc, que s'est-il passé pour en arriver à un divorce en pleine gloire ? On voit des enfants de 9 ans dans des concerts, hein. Excusez-moi, hein. Aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais moi j'étais à Saint-Tropez, j'étais pas à Paris.
Okay. Allez, hop, une grande fatigue, la Beatlemania qui les épuise, des rivalités, et puis les femmes, que dis-je, la femme, Yves Bigot. En 1966, John Lennon rencontre la désormais culte Yoko Ono. C'est qui ?
Yoko Ono, c'est une artiste japonaise du groupe d'avant-garde Fluxus, qui vient exposer à Londres, à la galerie Indica, qui est la galerie la plus branchée de Londres, qui est très fréquenté, notamment par Paul McCartney, qui est un amateur d'art. Et John Lennon donc, vient visiter la galerie, et puis il est surpris par une œuvre de Yoko, etc. Il la rencontre ce jour-là, et à partir de là, elle ne l'a plus lâchée.
D'accord. Donc, histoire d'amour fulgurante, il a 26 ans, lui, à l'époque.
Il est marié, par ailleurs.
Alors voilà, c'était quoi la vie sentimentale des Beatles ?
Oh là là.
Alors, ça y est, on est parti. On était censé parler de Yoko, mais parlons un petit peu quand même des femmes.
Alors, ils sont à ce moment-là, en tous les cas, ils sont mariés, tous sauf Paul, qui est le célibataire de la bande.
D'accord, ok.
Et John est marié avec Cynthia et il a un fils, Julian.
Et il envoie tout valser en rencontrant Yoko Ono parce qu'il tombe fou amoureux.
Oui, alors c'est un peu progressif, ça prend un petit peu de temps, mais oui, c'est comme ça que ça va finir assez rapidement quand même.
Beaucoup l'ont tenu pour responsable de la séparation du groupe.
Alors, elle a joué un rôle, c'est clair. Parce que John et Yoko, c'était devenu un ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne se présentaient plus jamais l'un sans l'autre. Et John a fait cette chose extrêmement transgressive au sein de ce gang fermé des quatre. C'est qu'il a fait venir Yoko en studio avec lui. Et donc, d'un seul coup, il y avait un élément perturbateur qui venait modifier l'équilibre chimique existait entre les quatre. Et d'un seul coup, pour les trois autres, alors qui adoraient John, donc qui étaient à la fois très tolérants, mais d'un seul coup, c'était plus pareil. Ils ne pouvaient plus se dire les mêmes choses de la même façon. Puis vous savez, vous introduisez une femme dans un groupe d'hommes et la chimie de la pièce change.
Oui, ou on introduit... Enfin, oui, d'accord. Une femme, dans le sens, quelqu'un de sentimental.
Oui. Je ne saurais pas dire, mais en tous les cas, quelqu'un qui n'est pas
vérifié.
Du même genre.
Voilà, c'est ça. OK. Paul McCartney s'en est rendu compte assez rapidement. On va l'écouter, c'était en 2018. Il revenait justement sur Yoko Ono dans le Howard Stern Show. C'est une émission de radio américaine.
Il a rencontré Yoko et John aimait les femmes fortes. Sa mère avait été une femme forte, sa tante qu'il a élevée avait été une femme forte. John a rencontré Yoko et nous avons pensé, oh mon Dieu, elle était intrusive, elle avait l'habitude de s'asseoir avec nous pendant les sessions d'enregistrement. On s'écrivait des morceaux l'un sur l'autre et c'était devenu des armes.
Les Beatles auraient continué si John Lennon n'avait pas découvert la politique, l'avant-gardisme avec Yoko Ono, déclara aussi Paul McCartney. Yoko Ono, en fait,
L'a radicalisé.
Alors, voilà. Est-ce qu'elle l'a détourné, finalement, de ce qu'il...
Détourné, c'est difficile à dire, puisque, d'ailleurs, Paul l'évoque un peu, John attendait de l'être. C'est pour ça aussi qu'il a été autant séduit par cette femme. C'est parce que, intellectuellement, elle était son égale et il avait besoin, lui, et envie qu'elle l'emmène là où elle l'a emmené. Alors évidemment, là où elle l'a emmené, c'était un peu plus loin des Beatles.
D'accord. Et dans des engagements politiques.
Bien sûr.
Dans des engagements qui sont idéologiques aussi.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça veut dire que la politique est rentrée au sein du groupe.
Alors, elle était déjà là, mais de manière différente et moins radicale, parce que Paul McCartney était tout à fait aussi impliqué. Ils allaient voir régulièrement, mais à l'instigation de Paul, Bertrand Russell, le prix Nobel anglais, qui leur parlait justement du pacifisme, de l'attitude à avoir vis-à-vis de la guerre du Vietnam, etc. Donc, George Harrison, lui, très vite, a été aussi à peu près au même moment, vers 1966, impliqué auprès de Ravi Shankar dans l'hindouisme, etc. Donc, ils étaient tous, à leur manière, engagés. Mais Yoko, c'était quelque chose de plus radical que ne l'étaient, on va dire, les hippies de la période qu'étaient les trois autres.
D'accord. Oui, on n'était pas que dans le flower power, quoi. Ça allait plus loin.
Ça allait dans le radicalisme de l'art.
On va se retrouver dans un instant. J'ai encore des questions à vous poser sur Yoko. Et puis, on reviendra sur d'autres tensions qui sont nées à la mort de leur manager historique. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous, Jour J, qui se poursuit jusqu'à 21h en direct des studios de Neuilly-sur-Seine. On parle des Beatles ce soir, les Beatles qui ont eu un succès aussi phénoménal qu'éclair, comparé, c'est vrai, aux Rolling Stones qui jouent encore ensemble sur scène. 8 ans de Beatlemania jusqu'à notre Jour J de ce soir, le 10 avril 1970, et l'annonce de leur séparation. Yves Bigot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Une question avant de parler de la suite et notamment de la mort de leur manager historique Brian Epstein. Une question encore sur Yoko Ono, parce que ça me travaille quand même, cette femme. Est-ce qu'elle était malveillante? Parce que vraiment, elle a été accusée d'être à l'origine de la séparation des Beatles. Vous nous avez expliqué qu'elle apportait finalement une lumière artistique aussi au sein de ce groupe qui était son domaine à elle, qui est le domaine de l'art et pas le domaine du rock'n'roll. Et en même temps, elle a été vraiment vilipendée. On l'a accusée de malveillance. On disait même que son physique portait les stigmates de la méchanceté.
Alors c'est du racisme pur, bien évidemment, parce qu'elle était japonaise. Au Japon, elle était considérée d'ailleurs comme un canon de beauté, alors que nous, en fonction des canons de beauté occidentaux, on trouvait qu'elle était plutôt pas terrible.
Ouais.
Non, elle n'était pas malveillante du tout. Elle a joué un rôle. Elle n'est pas la seule raison, loin de là, de la séparation des Beatles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, mais elle y a joué un rôle. Bien sûr, elle n'était pas malveillante. Simplement, elle venait d'un monde qui était plus élevé trouvait-elle, en tous les cas, que celui du rock, elle venait du monde Fluxus, c'était vraiment là. Ben, hein, le niçois, hein, faisait partie de Fluxus, etc. Beaucoup de grands artistes. Et donc, en fait, elle trouvait, elle était un peu condescendante. Vis-à-vis des Beatles, parce que ils avaient du succès, oui, ils faisaient du rock,
facile, bon, des bonnes chansons, etc.
Alors qu'elle, elle venait de l'art avec un A majuscule.
D'accord. On ne peut pas parler du succès phénoménal des Beatles sans parler de leur manager, Brian Epstein. Il le devient d'ailleurs dès leur début, hein, en 61.
Oui, bien
c'est
sûr.
L'un des premiers à miser sur les Beatles, quoi.
Oui, bien sûr. Il tient, il a plusieurs magasins de disques à Liverpool.
D'accord. Il les fait grandir. Il les fait connaître dans le monde entier. Il y a 73 millions d'Américains qui vont découvrir quand même, hein, les Beatles lors de leur première représentation télé aux États-Unis, ce qui est dingue. Il va être là aussi en 65 quand Elizabeth II va leur remettre une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Bref, son.
Il est là tout le temps.
Voilà,
non,
c'est
non,
ça.
Il est là tout le temps. Il les chaperonne.
Voilà. Et donc, il a pour le coup, les Beatles, c'est pas seulement quatre personnes. Quand on s'intéresse à la personnalité de Brian Epstein, c'est cinq en réalité.
Et c'est six avec leur producteur George Martin, qui a un rôle en studio qui est encore plus important que le rôle de Brian Epstein, le manager. Mais dans la séparation des Beatles, la mort de Brian Epstein va jouer un rôle capital.
Bon, il meurt en 67, en août 67, d'une prétendue overdose.
Oui, hein, vraisemblablement.
Voilà. Là, c'est le drame pour le groupe, parce que quoi ? Parce que là, il se retrouve sans...
Mais parce que c'était lui qui était la boussole, c'est lui qui tenait un peu la baraque, c'est qui ça. Leur disait là où il fallait qu'ils aillent, là où il fallait qu'ils soient. C'est lui qui les avait transformés de rockers, teddy boys, etc., en ces garçons un peu propres, avec la jolie coupe de cheveux, les petits costumes, etc. Quand il n'a plus été là, la question a été de qui prend le rôle de Brian Epstein. John Lennon était le leader, hein, c'était son groupe, c'était lui qui avait formé ce groupe au départ. Mais à partir du moment où il est avec Yoko, John il se met à penser à autre chose et en fait il abandonne le leadership.
Ouais, il lâche
et donc la seule personne qui peut le prendre, c'est son compère, c'est Paul McCartney. D'autant que Paul, il est très volontariste, il a très très envie que le groupe réussisse, c'est celui qui sourit tout le temps aux filles, qui sourit à la caméra, c'est celui qui est positif, Paul. Voilà, celui, il n'y a pas la moindre part d'ombre en lui, contrairement à John, qui a une part d'ombre très importante, en lui, énormément de souffrance, qui va d'ailleurs ressurgir, remonter, lors de sa relation avec Yoko Ono, parce qu'elle va lui ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'il a enfouies au fond de lui depuis son enfance. Hein, sa mère ne l'a pas élevé. Quand il commençait à avoir une relation avec elle, elle a été tuée par une voiture dans la rue de Liverpool. Je veux dire, ça a été terrible. D'ailleurs, un des liens entre John et Paul, il y en a énormément, mais il y a le fait qu'ils ont tous les deux perdu leur maman quand ils étaient adolescents. Et c'est quelque chose, ils n'avaient plus, chacun n'avait que l'autre. Quasiment comme famille, hein. Donc oui, la disparition de Brian Epstein d'un seul coup, c'est la boussole qui n'est plus là, et là Paul va prendre les rênes, et du coup George va un peu grincer des dents, même Ringo va s'énerver que Paul lui explique comment jouer de la batterie, et Lennon en fait il va un peu abandonner le terrain et devenir John et Yoko, c'est-à-dire une entité à côté des Beatles. D'ailleurs, il va assez rapidement faire des disques avec Yoko sous le nom du Plastic Ono Band, parallèlement aux Beatles, dans tous les cas, au cours des 18 derniers mois.
Il va y avoir un nouveau manager, quand même, qui va arriver.
Alors oui, mais non.
Le fameux putain d'idiot, selon
Paul McCartney. C'est pas, c'est un manager, mais c'est un business
Alan
manager.
Klein. Alors voilà.
C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, oui, Brian Epstein s'occupe des affaires des Beatles, mais c'est leur nounou. Il est avec eux tout le temps, sauf en studio, hein, où ils lui disent « tu comprends rien à la musique, donc toi on te donnera le disque quand il sera fait ». Mais il est avec eux. Alors que Alan Klein, c'est un Américain, c'est un avocat américain qui a très mauvaise réputation, qui est un vrai requin, et il va s'occuper uniquement du business. Il s'occupe pas d'eux. D'ailleurs, s'il s'était occupé d'eux et que ça avait été un bon manager, il ne se serait pas séparé.
Voilà.
Parce que le rôle d'un manager, c'est de régler les problèmes au sein du groupe.
C'est lui qui a été attaqué par
par Paul McCartney,
par Paul McCartney,
qui
récupérait les droits.
Qui estimait qu'il allait voler les trois autres, bien sûr. Et ça a joué au moins autant que la présence de Yoko Ono dans la séparation du groupe.
Parce qu'il se dit aussi que Paul McCartney, pour récupérer les droits de leur titre, hein, qui appartenait donc à Alan Klein, a été obligé d'attaquer les autres membres des
Absolument.
Beatles. Donc ça, mais ça fiche un sacré...
Oui, bien sûr. Une mauvaise ambiance, et la raison pour laquelle Paul l'a fait, c'est que c'est en ça que les épouses ont joué un rôle.
Linda McCartney.
C'est que Linda Yoko Ono. Eastman... Donc, qui épouse Paul, ils étaient d'ailleurs en voyage de noces à Ramatuelle et à Saint-Tropez. Hein.
C'est
des avocats. Mmh. Et donc, les Eastman ont dit, mais à New York, mais tout le monde connaît Alan Klein, tout le monde sait que c'est un voyou, que c'est un voleur. Et donc, ils disent à Paul, surtout ne signe pas avec ce gars-là, ne signe jamais avec ce gars-là. Alors que les trois autres avaient été bluffés par lui, parce que c'est vrai qu'ils avaient un certain nombre de contrats qui étaient vraiment des contrats léonins et pourris. Et Alan Klein leur a dit, mais moi, je vais multiplier par 5 vos revenus, etc. Donc, les trois autres allaient marcher dans la combine.
Un procès qui aura duré très très longtemps. Oui. On y reviendra dans un instant avec vous dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit jusqu'à 21h en compagnie d'Yves Bigot, notre invité. Yves Bigot, on parlait il y a un instant du procès que Paul McCartney donc, a intenté contre les trois autres membres des Beatles pour protéger finalement leurs droits, les droits de leur chanson, car c'est absolument phénoménal. Et il ne voulait absolument pas que ce soit Alan Klein, leur dernier manager, et qui était effectivement un homme d'affaires.
Qui n'a jamais été le sien. Hein,
qui n'a jamais été le sien, voilà, c'est ça. Donc... C'était une façon, d'ailleurs, il l'a dit, pour lui, de protéger même ses comparses.
Exactement.
Mais combien de temps ça a duré, ce procès ?
Il a duré plusieurs années, avec des rebondissements.
C'est ça, hein ?
Mais d'une certaine façon, il s'est poursuivi en dehors d'eux. Après, c'était des histoires d'avocats. Mmh. Parce que, si vous voulez, il y a toujours tout a toujours son revers. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y avait des pics... parce que c'était pas des insultes, ça allait pas jusque-là, mais dans les albums des uns et des autres, même Ringo a fait des chansons sur la séparation.
Oui.
Mais ils continuaient à se voir, ils continuaient à se fréquenter.
Enfin, hein. De l'extérieur, on n'a pas ce sentiment-là.
Mais non, mais parce que, je vous dis, le lien qu'il y a entre eux, il était indéfectible, il était au-delà des bisbilles, il était au-delà des questions d'avocat, d'intérêt du moment.
On dit qu'un sou était un sou dans les Beatles.
Alors, non, ils ne savaient même pas combien ils avaient d'argent, tellement il y en avait, et tellement ils se faisaient voler par ailleurs, hein, de tous les côtés.
D'accord. Chacun a mené son bonhomme de chemin solo, hein, après l'annonce donc de la dissolution du groupe en 1970, pas avec le même succès quand même.
Alors, pour trois d'entre eux, hein, évidemment, c'est Ringo qui a eu le moins de succès, quoique les premières années, hein, il a eu deux albums qui ont été absolument énormes. D'ailleurs, le premier sur lequel les trois autres jouaient, même Paul. Donc, voilà. Après, le succès de Ringo s'est étiolé, mais parce que la musique a changé aussi, etc. Mais les carrières solo de John Lennon, de Paul McCartney et de George Harrison, parce que d'une certaine façon, c'est presque lui qui sort son triple album All Things Must Pass, qui est peut-être le meilleur album solo des Beatles. Donc, alors que c'était le Benjamin, dont on n'imaginait pas qu'il pouvait écrire autant de chansons avec autant de talent, même si on aurait dû faire attention, hein, ses morceaux étaient de mieux en mieux. Hein, While My Guitar Gently Weeps, c'était un morceau formidable sur le double blanc. Ces deux morceaux sur Abbey Road, Here Comes the Sun et Something... C'est des morceaux exceptionnels, donc on voyait bien qu'ils montaient en puissance et en qualité, mais personne n'imaginait que c'était à ce point. Et on entendait les petites billes il y a quelques instants. Une des engueulades avec McCartney en studio, c'était que Paul voulait lui dire comment jouer le solo de Let It Be.
Et lui considérait que...
Lui, il est parti, il est sorti du studio le deuxième jour de tournage des Get Back Sessions en disant « See you around the clubs », on se verra dans les clubs. Et John, à ce moment-là, d'ailleurs, a dit « Si George n'est pas de retour lundi, appelons Eric Clapton ».
D'accord, comme ça, c'était clair, effectivement.
Mais lundi, il était de retour.
J'imagine, très bien. En 1980, John Lennon est assassiné au pied du Dakota Building à New York par un déséquilibré. Vous me disiez il y a un instant en antenne que quelques jours avant, en fait, John Lennon parlait avec McCartney.
Ils ont toujours gardé le contact, en réalité. Ils se sont toujours vus. Et Paul est passé voir John en studio pendant qu'il enregistrait l'album Double Fantasy, donc l'album qui est sorti au moment de son assassinat. Et il devait d'ailleurs venir dîner au Dakota avec John. Et alors, certains témoins disent que quand il a sonné au Dakota, Yoko lui aurait répondu « John ne veut pas te voir ». Et John n'était pas au courant, évidemment. Mais est-ce que c'est une légende urbaine ?
Oui, mais alors,
je ne peux pas vous le dire.
En l'occurrence, il n'y avait pas une super bonne volonté là, de la part de Yoko.
De la part de Yoko, peut-être à ce moment-là. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine.
Est-ce qu'il est vrai que John Lennon avait déjà été menacé de mort, qu'il était inquiété de par ses engagements aussi politiques, pacifistes ? Il était cible aussi de certaines menaces.
Il a eu beaucoup de mal à faire renouveler sa carte verte, donc la carte qui permet aux étrangers de séjourner et de travailler aux États-Unis. Oui, bien sûr, il avait reçu des menaces. Il était surveillé par la CIA, qui fichait à ce moment-là toutes les stars du rock, et qui avait très très peur, surtout, qu'il reformât les Beatles et qu'il fasse des concerts contre le nucléaire, pour paix, etc. Ça terrorisait la CIA et le gouvernement américain de l'époque. Donc oui, bien sûr, il était fiché, il était surveillé. Est-ce qu'il était vraiment menacé de mort ? Je ne le sais pas. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui disent que son assassin, en fait, est quelqu'un qui a été formé et manipulé par la CIA pour l'assassiner.
En 1966, donc là, on revient en arrière, parce qu'il a été assassiné en 80, en pleine gloire, il déclarait, vous le savez, que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Dans les états conservateurs des États-Unis, où il a été assassiné, leurs disques, les disques des Beatles sont brûlés et John Lennon est menacé de mort, justement, par le Ku Klux Klan.
Nous sommes connus comme étant une organisation de terreur et nous avons les moyens de les arrêter. Et oui, c'est ce qui va arriver. Je ne veux pas dire comment, mais il y aura des surprises quand ils arriveront lundi dans la nuit.
Bon, alors il y avait eu cette provocation qui n'en était pas une, enfin bon voilà, sur Jésus, mais c'est fou parce que c'était un artiste qui déjà en 66 était la cible finalement de certaines menaces.
Oui, bien sûr, il ne laissait pas le monde indifférent. Vous savez, un jour d'ailleurs, il y a un journaliste qui avait dit « Mais pourquoi les Beatles, pourquoi vous ne faites pas de chansons contre la guerre ?» Et Lennon lui avait répondu
« C'est trop risqué.
Toutes nos chansons sont contre la guerre.
Ouais. » On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va revenir sur les carrières respectives des artistes depuis. Et ah, c'est beau aussi. Bah, ça me rappelle des souvenirs. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, il cartonne toujours en 2021. Ce soir, on retrace la carrière fulgurante des Beatles et ses parcours hors normes. Yves Bigot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Il y a un instant, on parlait de John Lennon, de Yoko Ono, évidemment. John Lennon et Yoko Ono qui étaient engagés aussi pour des causes pacifistes. Il reste des images devenues cultes parfois, des photos comme ça qui nous ont marquées. Et je pense à celle de Yoko Ono et de John Lennon dans un lit à Amsterdam, au Hilton Hotel, contre la guerre du Vietnam. Et qui donnent des interviews toute la journée depuis leur plumard.
Exactement.
Je pense que je vais faire ça pour mes émissions. C'est assez pratique, surtout sur les horaires 20h-21h, tous les soirs, dans mon lit. Non mais voilà, ça c'était un acte aussi puissant.
Oui, bien sûr, ils ont fait ça aussi à Montréal, à l'hôtel Reine Elisabeth, etc.
Absolument.
Ils faisaient le tour un peu comme ça, et pour la paix, c'est le moment. D'ailleurs, à Montréal, c'est là où ils ont enregistré dans la chambre Give Peace a Chance, donc ouais. le premier 45 tours du Plastic Ono Band.
Voilà, et donc une façon aussi pour eux de marquer les esprits.
Bien sûr, et de faire des actions... comme ça, coup de poing qui marque, ça c'est Yoko.
C'est ce que j'allais dire, c'est clairement
ça vient du monde
c'est un
de
happening
l'art.
Artistique.
C'est du happening, bien sûr.
Exactement. Comme les grands groupes mythiques qui traversent les époques, il y en a certains d'entre eux, évidemment, qui disparaissent sous nos yeux. Et puis là, on se prend un coup de vieux, un coup sur la cafetière, quand on les voit disparaître, à l'instar de Charlie Watts, des Rolling Stones, donc décédé le 24 août dernier. Des 4 Beatles, il n'en reste que 2 aujourd'hui. Yves Bigot. John Lennon a été assassiné en 80. George Harrison, lui, disparaît en novembre 2011. Ringo Starr est moins connu, vous l'avez dit, et puis a moins réussi sa carrière solo que Paul McCartney. Mais Paul McCartney, on a l'impression que lui, il est indéboulonnable.
C'est une superstar, oui.
Ouais.
Bien sûr, c'est un des immenses monuments qui restera de l'ère rock. Vous savez, de l'ère rock, on se souviendra de quoi ? Des Beatles et de Bob Dylan.
Et c'est vrai que Paul McCartney a eu finalement une carrière plus longue en solo.
Oui, bien sûr.
Que les Beatles. Non, mais je trouve que c'est le seul. Pardon, alors c'est peut-être moi qui. Je ne m'y connais pas comme vous, mais j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus réussi. Alors peut-être parce qu'il est.
Il a duré,
encore en
surtout.
Vie, quoi, c'est ça, enfin.
Oui, ben surtout, il y a la durée hein, qui joue pour lui, et puis le nombre de tubes qui joue. Ouais. Je veux dire, il ne peut pas les jouer tous. Un concert de 3 heures de Paul c'est McCartney vrai. Ne suffit pas à ce qu'il joue tous ses tubes. Ouais. C'est monumental.
Quelle aurait été la carrière de John Lennon s'il était resté en vie, selon vous ?
C'est impossible de le savoir.
Est-ce qu'il aurait continué dans la musique ? Est-ce qu'il aurait été artiste ?
Alors, Jack Douglas, qui était le producteur de Double Fantasy, donc le dernier album de John, moi, m'avait raconté que John lui confiait plusieurs choses. D'abord qu'il allait, après cet album, écrire un disque pour Ringo. Mmh. Ensuite, qu'il envisageait effectivement de reformer les Beatles, peut-être pour quelques concerts géants, justement pour la paix, contre le nucléaire, etc. Et qu'il avait, c'est Jack Douglas hein, qui le dit, l'intention de quitter Yoko Ono.
Oh ! Ah bah, pardon, là vous me laissez bouche bée.
Jack Douglas, d'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai. C'est lui qui, en tous les cas, le racontait.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que l'histoire aurait été différemment écrite, hein, évidemment.
Ah ben c'est sûr, c'est sûr.
Un jour J différent ce soir si effectivement...
Mais d'une certaine façon, c'est mieux qu'il ne se soit jamais reformé. Mmh. Parce qu'il reste,
c'est la légende,
comme ça,
quoi.
La légende et puis l'œuvre qui est nickel... De Love Me Do jusqu'à The End, à la fin de Abbey Road. C'est impeccable, c'est nickel. Ils n'ont jamais terni ni leur musique, ni leur légende. Et en fait, les Beatles, c'est les quatre meilleurs amis que le monde a jamais connus.
Voilà, et c'est ce que vous m'apprenez ce soir, parce que ce n'est pas le sentiment que j'avais. Contrairement, par exemple, aux Rolling Stones, qui ne se sont jamais véritablement séparés. Ils étaient encore sur scène.
Non, mais qui, eux, ne peuvent pas se saquer entre
Arrête.
Les vendanges. Depuis toujours.
Ah bon
oh ben là, mais pareil, il y a une espèce de fraternité, mais elle n'est pas du même ordre, du tout.
Bah, expliquez-moi. On a encore un petit peu de temps. Il nous reste 30 secondes pour parler de ça. Moi, ça m'intéresse.
Ils ont commencé par virer Ian Stewart, leur pianiste, dès leur début, parce qu'il n'avait pas le look. Ils ont viré Brian Jones, qui est mort 3 semaines après. Les Stones, c'est les Hells Angels du rock. C'est tout à fait autre chose. Et la dynamique est vraiment... Il y a moins d'équilibre. Les Beatles sont beaucoup plus équilibrés entre eux. Alors que les Stones... Dieu sait si Charlie Watts était un batteur exceptionnel, mais les Stones, ça joue sur la dynamique pure entre Mick Jagger et Keith Richards, et uniquement là-dessus.
Merci beaucoup Yves Bigot d'avoir accepté mon invitation. Merci, je mentionne aussi votre roman, Catherine, je l'ai bien dit ou pas ?
Oui,
voilà,
oui, c'est ça.
Qui sortira en novembre, le 4 novembre, aux éditions Encre d'Oignon, on y parlera aussi musique. Hein ?
Absolument.
Voilà, merci à vous d'avoir accepté mon invitation, à bientôt.
Merci beaucoup à vous Flavie.